Kabylie Radio Silence, bonjour. Voilà, c'est la troisième carte postale depuis Yaoundé. Bien, ça va être simple, hein, on va continuer sur la même lancée. D'abord, j'ai eu encore, parce que j'ai une chance inouïe, hein, je fais des rencontres très très intéressantes de façon tout à fait inattendue. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a reparlé de l'hôpital. Vous vous souvenez, hein, franchement, ça devient un feuilleton. Alors, il a ajouté au tableau noir que nous connaissons déjà que l'hôpital, c'est un cauchemar, mais ça, on le sait déjà, ici au Cameroun. Et il m'a donné trois exemples, enfin plusieurs exemples, mais j'en ai retenu trois qui sont quand même, comment dire, violents. C'est celui, il me dit, quand vous savez, quand vous faites, quand votre malade va être opéré, vous devez, donc il y a une ordonnance qui vous est faite pour acquérir les médicaments pour l'anesthésiste. Quand vous allez dans la pharmacie de l'hôpital, parce que ici, voilà, les médicaments ne sont pas prêts. Mon papa est mort d'ailleurs parce qu'il manquait une seringue. Le temps d'aller chercher la seringue, en 2 minutes, c'était fait. Ni l'infirmière, ni le médecin dans les urgences n'avaient une seringue. Les choses qui coûtent pratiquement 1 centime. Hein. J'exagère à peine, mais c'est cela. Donc l'anesthésie, quand vous allez récupérer ce qu'il faut pour le monter à l'anesthésiste, on vous dit oui, mais l'anesthésiste a déjà tout ça, pourquoi il nous dérange, mais il a tout ça en haut. Alors ça veut dire qu'il faut monter dans le bureau de l'anesthésiste pour lui présenter l'ordonnance. Du coup, ce qui coûte 30 000 francs CFA, environ 50 euros, va vous revenir à 50 000 francs CFA, environ 80 euros. Dans entre-temps, notre anesthésiste s'est fait sa marge bénéficiaire et c'est le pharmacien du coin, quoi. Voilà. C'est soit vous prenez chez lui, soit c'est très grave parce qu'il fera ce qu'il pourra pour votre malade et ben, tant pis pour vous. Le malade peut être sous-anesthésié, peut-être qu'il aura trop mal, peut-être que ça va se passer mal, mais vraiment, ce n'est pas son problème parce que là, il aura perdu de l'argent et il fera n'importe quoi comme boulot. Donc, ça, c'était côté anesthésiste. Et puis, ben, il a ajouté, mais dit, mais on, parce qu'on discutait à bâton rompu, hein, sur tout ce qui marche, tout ce qui ne marche pas, mais ça, c'est. Le Cameroun est tellement mal en point que ça, c'est un sport national. Hein, vous ne pouvez pas louper dans le taxi, partout où vous êtes, la discussion embraye là-dessus. D'autant qu'en ce moment, il y a toute une foire qui est en place, toute l'élite camerounaise politique ou politisée. Ces prises de passion de faire des appels comme ça du pied au président, ils appellent ça des motions de soutien, je ne sais pas trop quoi. Ils font des émissions, ils font des articles presse dans le Cameroun Tribune, qui est l'organe de presse national, où ils implorent le président Paul Biya de se présenter aux prochaines élections. Il y en a même qui sont allés très loin, qui demandent carrément au président d'organiser des élections anticipées. C'est-à-dire, on est tombé très bas au Cameroun, mais ce n'est pas seulement le Cameroun. Une fois qu'on a soumis les gens, on les a rendus, je veux dire, on a retiré les esprits et les âmes, ces gens vides, ces zombies, il n'y a pas qu'à l'étranger, en Occident. Hein. Ici, c'est pareil, parce que c'est la même gangrène qui dirige le monde et qui le contamine avec cet esprit. Comment j'allais dire, ville. Donc vous avez ces êtres rampants qui demandent au président Biya de se représenter, à tel point qu'il y a un taximan qui m'a dit, mais vous savez, madame, peut-être même que ce n'est pas le président Paul Biya qui veut se représenter, mais c'est toute la clique qui vole autour, qui a intérêt à ce que le président soit là, en quelque sorte comme s'il est protégé, il était le garde-fou de leur du système, voilà. Pas parce qu'il le veut lui, mais parce que son entourage le veut. Est-ce que le président Biya serait pris en otage par son entourage? Question. Je ne peux pas répondre. Donc, toujours l'hôpital. Hein. Donc, le deuxième exemple que ce monsieur me prend, alors quelqu'un de très, 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 comment dirais-je, je le crois, hein. Voilà, il est intègre. Je ne sais pas s'il est intègre, mais ce qu'il disait était plausible. Il me dit, pour les infirmières, c'est très simple. Elles grondent les malades. Si vous l'ouvrez, voilà, votre malade, il est traité un peu n'importe comment. Et parfois, ce sont de jeunes infirmières. Et lui, il s'est pris de gueule avec une qui a engueulé sa maman, qui était malade, une femme âgée. Il lui a dit, mais attends, la maman de qui? Il est parti de l'hôpital, il est allé ailleurs. Et non seulement elle gronde les malades, mais elle vole les remèdes des malades. C'est-à-dire que, après qu'on vous ait prescrit cette ordonnance, vous allez vous l'acheter, vous laissez les médicaments là, vous revenez le lendemain et il en manque. Et surtout, ne vous plaignez pas parce que ça risque d'être très grave pour votre malade. Donc, les médecins, je veux dire, l'hôpital qui menace les malades et ceux qui accompagnent les malades, c'est terrible. Ensuite, il y a le cas après. Alors là, c'est trop gros. C'est les chirurgiens qui, pour déjà, il y a la mode, hein, la même mode qu'en Occident où les médecins sont partout, ils sont dans les cliniques, ils sont dans les hôpitaux, ils courent de partout, ils s'occupent mal de tout, bien sûr. C'est le business, hein, c'est le business pour opérer le max, faire le fric. Le patient n'est plus que, comment dirais-je, un client, c'est plus un patient. Et donc, pour ces médecins dans les hôpitaux, ils exigent, en dehors de leur salaire, 300 000 francs CFA donnés à la main avant l'opération. Vous ne les donnez pas, ça va être un problème. Voilà. Donc, tout le monde est obligé de les donner. Et voilà. Je lui demandais, mais pourquoi c'est comme ça? Il me dit, oui, mais c'est tout l'esprit camerounais qui est comme ça. Il m'a dit, c'est l'esprit bantou. Voilà. Ah, je lui dis, comment ça, bantou? Ça devient anthropologique, là. C'est forcément génétique, c'est très grave. On est dans l'inné. Alors qu'il y a, l'acquis, quand même. Il me dit, oui, mais bon, tant qu'il n'y a pas l'acquis, il y a l'inné qui prédomine. Et il y aurait une sorte de prédomination sur le bantou, une prédomination pour le laxisme, une prédomination pour l'attentisme. C'est-à-dire, on parle, on ne fait rien, on glande, voilà. Chacun pour soi. Et il m'a rassuré qu'en Côte d'Ivoire, cet esprit-là n'existe pas dans les hôpitaux parce qu'il y était. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on a ce genre de choses. Et d'ailleurs, il a profité pour me rappeler que la Côte d'Ivoire était devenue le premier producteur de l'acajou. Bravo. Pour la Côte d'Ivoire qui est quand même sortie de la situation que vous connaissez très bien, situation de guerre, alors que le Cameroun est supposé être en paix, mais tu parles d'une paix, c'est encore pire alors en matière juridique. Il me dit, ce monsieur, que les avocats, vous avez votre avocat qui vous défend et qui en même temps dans votre dos s'entend avec l'avocat de la partie adverse, donc pour vous plumer. Voilà, vous perdez le procès parce que le cher avocat, il s'est fait payer deux fois par vous et par votre adversaire dans votre dos pour vous faire perdre. C'est carrément... Ça n'a pas de mots. Il fallait que je le dise ça parce que tout cela rejaillit sur ce qu'on appelle le climat des affaires, sur l'environnement des affaires. On ne peut pas dissocier la santé des gens, la santé de l'environnement, de la santé économique. Et si je dis santé, je parle aussi de croissance. Effectivement, on me dira, ça c'est un cercle vertueux, oui, pourquoi pas, mais vous voyez, quand déjà il n'y a pas d'homme portant, il n'y a pas d'environnement, comment voulez-vous faire des affaires? Rien que parce que des gens ont peur de l'hôpital, ben, ils ne viendront pas s'installer. Ça c'est clair. Là-dessus, on arrive quand même... à quelque chose de douloureux parce que comment les jeunes vont faire, comment on va se développer. On a par exemple l'autoroute de Simalène qui est en pleine construction. Simalène, c'est quand vous allez sur l'aéroport. Voilà, c'est d'ailleurs l'aéroport, le nom de l'aéroport. Les délais sont consommés pour 60%. On est à 30% de la réalisation des travaux. C'est partout pareil. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, vous regardez, et vous vous dites peut-être qu'il faut attendre la prochaine génération. Pourquoi pas? Alors, toujours dans l'actualité, je devais parler de l'électricité, mais alors, puisqu'on y est, allons-y. L'électricité, voilà, arrive dans ce micmac-là. Les villages ne sont pas éclairés pour l'essentiel. Donc, le Cameroun, il y a quelques années, a voulu faire comme la France. Elle s'est engagée dans ce qu'on appelle la décentralisation. Très bonne idée. D'abord, ça arrive très tôt, à mon avis, mais bon, pourquoi pas, puisque la centralisation a montré toutes ses limites et tout son cynisme dans la gouvernance. De cette décentralisation, on retient quoi pour l'électrification des villages? On retient que j'ai le document. Il y a une ONG qui a fait une très belle étude, là je suis d'accord cette fois-ci, pour évaluer les besoins des communautés villageoises. Et j'ai pris le cas de ma communauté, voilà, villageoise de mon village. Je tiens le dossier de mon feu père, donc il fallait que je regarde cela. C'est ce que je lui dois au moins cela. Et je regarde ce document. Tout de suite, je vois l'introduction. On nous dit, le processus de décentralisation en cours au Cameroun, mise en œuvre par le Programme national de développement participatif, en abrégé PNDP, vise à inculquer aux communautés à la base, en parenthèse village ou groupe de village, la notion d'autonomie et de participation à la prise de décision en ce qui concerne le choix et la planification de leurs besoins prioritaires. C'est dans cette perspective que le plan de développement local de cette communauté a été élaboré avec le conseil et l'appui technique de l'organisme Groupe Avenir engagé par le PNDP, alors dans l'intention de sortir les populations de la léthargie. Bon, quand vous avez une introduction comme ça, tout de suite, je suis obligé de réagir parce que tout cela s'apparente à quelque chose que je connais très bien en France et qui a capoté, qui s'appelait la politique de la ville. Déjà, on reprend l'introduction, vite fait les mots-clés. Quand vous vous dites que ce processus, tel qu'ils écrivent, vise à inculquer aux communautés à la base, village ou groupe de village, la notion d'autonomie et de participation à la prise de décision, vous rigolez un peu, parce que comment pouvez-vous inculquer la notion d'autonomie et de participation à la prise de décision alors que vous-même déjà vous êtes incapable d'en prendre une, de donner le modèle, de donner l'impulsion, vous n'êtes pas autonome. Vous, quand j'ai dit vous, c'est les gouvernants, ici à Yaoundé, ils ne sont pas autonomes, ils ne donnent pas le modèle d'autonomie, on leur donne l'hôpital, ils sont incapables de gérer. Je reconnais ici que, voilà, je ne vais pas dire que c'était mieux du temps de la colonisation, mais tout de même, il y a des choses qui fonctionnaient. La prise des décisions, mais là, c'est un micmac total. Comment on prend les décisions? Et puis, il ne faut pas oublier que ces gens-là, donc, prise des décisions en ce qui concerne le choix et la planification de leurs besoins prioritaires. Les besoins, ils les savent, la planification, ça c'est une compétence qu'ils ne peuvent jamais acquérir, parce que pour cela, il faut une certaine expertise. Donc l'État se défausse sur les populations, se défausse sur les mairies, on dit que les mairies ont des experts, mais quels experts? Les mairies élisent les gens qui sont sur place, bon, les conseillers municipaux, ils sont forcément limités, c'est des villageois. Dans le cas de mon village, on a une ou deux personnalités parce qu'elles étaient, elles ont travaillé dans l'État, mais les autres ne savent rien. Qu'est-ce qu'ils en savent, la planification? Ils ne peuvent pas assurer la maîtrise d'ouvrage, parce que plus loin, je l'ai lu là, qui devait assurer la maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est carrément mission impossible. Là-dessus, on rajoute que c'est dans l'intention de sortir les populations de la léthargie. Mais bon sang, la participation, ce n'est pas un décret, c'est une culture. Quand vous n'avez pas cette culture, et c'est un modèle de gouvernance, quand tout cela n'est pas fait, au niveau du pilotage central, c'est pas en bas que ça se fera. Ça va être très difficile, d'autant plus que c'est toujours récupéré d'une façon ou d'une autre. Alors, puisqu'on parle de développement, on va élargir dans cette histoire d'énergie électrique. Je me demandais pourquoi certaines communautés sont éclairées et pas d'autres. Je suis allé, ce dossier qui date depuis, c'est les premiers plans, 2007. Je demande pourquoi là, nous, on n'a pas été financés, on n'est pas éclairés. Nous, c'est-à-dire mon village, c'est élargi. Il y a deux communautés qui se sont regroupées pour cela. On me dit oui, mais les crédits étaient épuisés. Je suis allé au PNDP. Les crédits étaient épuisés. Ah oui, et comment il fallait faire alors que les villageois ont donné leur participation? En fait, ils donnent un pourcentage symbolique et l'État complète. Oui, les crédits étaient épuisés. Mais ils ont été informés? On ne sait pas trop, il faut qu'ils voient avec leur mère. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je suis remontée vers la direction, on m'a réorientée. Et puis finalement, ah oui, bonne nouvelle, la directrice de l'Institut me dit que oui, finalement, il y a eu des crédits ces jours-ci, donc c'est le plan, c'est le troisième contingent. Et là-dessus, ceux qui avaient effectivement rempli les satisfaits aux conditions de participation pour une part, c'est ma communauté que je défends, ils peuvent être financés. Et comment il fallait le savoir, il fallait y aller, le demander, mais c'est pas fini, parce qu'il faut repartir à la mairie, que le maire repasse cela en conseil municipal, et tralala, et tralala. Donc les institutions prennent leur temps. Les groupes, les ONG, tout concerne, sont payés, mais les villageois qui doivent recevoir ces investissements, ces équipements, ben, ils peuvent toujours courir tant qu'il n'y a personne pour le faire. Et alors, je vais peut-être terminer par là, parce que je ne sais pas si vous allez pouvoir digérer tout cela. Je prends cette étude qui est intéressante, j'ai rien à dire, et qui dit, par exemple, elle a identifié les besoins. Il manque donc l'énergie. Il manque les points d'eau, il manque les écoles, il manque les centres de santé. Voilà, tout cela, ça fait beaucoup et ça fait le cœur du développement dans ces zones enclavées. Et toutes ces choses-là se répondent en écho. Quand on détaille, ils ont un schéma très, très intéressant, très explicatif. Difficulté d'accès à l'énergie électrique. Oui, parmi les besoins, il y a aussi le VIH hein, qu'il faut traiter, qui est très, très grave, surtout parmi les jeunes. L'information pour la prévention du VIH. Difficulté d'accès à l'énergie électrique, je lis. Je vois, il y a les causes et les conséquences. Parmi les causes de cette difficulté, il y a l'ignorance des procédures. Il y a la non-inscription du projet dans les tuyaux, vous avez compris, institutionnels. Il y a le manque de moyens financiers. Ça, c'est quand vous avez la haute tension qui passe directement dans votre village, donc ça peut être fait autrement, techniquement. Il y a l'absence de solidarité et une forme d'incompréhension entre les villageois. Et bien sûr, ils ne sont pas habitués à travailler comme cela. Il y a l'ignorance des structures d'appui, bien sûr. Il y a la faiblesse des revenus agricoles. Bon, ça, c'est lié aux moyens financiers qui font qu'après, quand vous passez un transformateur en tirant la haute tension, c'est compliqué. Et il y a la passivité des GIC, qui sont des groupements d'intérêts collectifs et des associations. Bon, ils sont passifs, que si vous voulez qu'ils fassent, on leur demande de monter une association pour accéder à ça. Ben, en même temps, ils s'informent, ils ne comprennent pas du tout tout cela même. Et de toute façon, ils sont sceptiques, compte tenu de tout ce que je vous ai décrit auparavant, ils sont sceptiques sur la réalisation de tout cela. Après, on regarde les conséquences, donc, parce qu'il n'y a pas d'énergie électrique, qu'est-ce qu'il y a? La zone devient à risque, dans ce sens qu'il y a une augmentation de l'insécurité, c'est tout noir. Difficulté à sédentariser le personnel public et privé. Difficulté à utiliser les appareils électroménagers, tu m'étonnes. Il y a des abandons, découragement, il y a l'exode rural qui vient avec, bien sûr. La difficulté d'encadrer les enfants qui vont à l'école et des retards scolaires, ben oui, parce que alors à ce moment-là, on rejoint la question de l'école qui n'est pas à côté, on rejoint la question de l'enfant qui doit faire ses devoirs, on rejoint la question de l'enfant qui vit dans un environnement où il n'y a peut-être pas d'eau très potable, ou peut-être si, mais un peu éloigné. Quand vous venez après voir ce qu'il y a dans l'entretien des routes, les routes c'est carrément catastrophique, et là, avec l'enclavement, on parlait du développement. Avec l'enclavement de ces communautés, non éclairées en plus, comment voulez-vous que ces gens-là cheminent leur production agricole vers les centres où ils peuvent les écouler, etc., etc. Si le sous-développement, c'est quelque chose qui va en boucle et qu'il faut attaquer, pas seulement en faisant l'électricité, mais en commençant par l'électricité et les routes, peut-être qu'on arrive déjà à quelque chose de... On prend le problème par le bon bout. Peut-être, mais peut-être, il faut tout attaquer en même temps et c'est une tâche colossale. Là-dessus, bon, le président Obama a signé enfin le plan qui permet à l'Amérique de venir apporter son secours à l'électrification de l'Afrique, qui cherche quand même l'électricité alors qu'elle a le soleil, qu'elle est installée sous l'or, mais ça c'est toujours comme ça à l'Afrique, elle va chercher l'or ailleurs alors qu'elle en a chez elle. Et là-dessus, on a General Electric, et on finit par l'actualité, qui se révèle être l'un des financiers de Madame Hillary Clinton, qui lui, donc, sous le modèle de ces conférences qu'on paye à prix d'or des centaines de milliers de dollars pour une conférence de Madame. Alors, qu'est-ce que General Electric fait dans ce foutoir où on a le Microsoft toujours, les ATT, tout ce qui est information, c'est-à-dire médias, tout ce qui est technologie et tout ce qui est industrie du net, etc. Quand on arrive à ce genre de mafia de la gouvernance, on ne sait plus quoi dire. Parce que c'est à tous les niveaux, en fait, que cette mafia se reproduit. Et bien sûr, il y a une volonté ici au Cameroun de sortir de cela, mais le bout du tunnel semble loin, 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 loin. Est-ce que je peux parler du remaniement ministériel en France? Non, franchement, ça ne sert à rien parce que si les péripatéticiennes deviennent des ministres de la culture, qu'un ancien ministre, premier ministre revient pour faire ministre des Affaires étrangères et que Laurent Fabius, qui a été condamné pour le sang contaminé, devient président du Conseil constitutionnel, je donne ma langue au chat et je vous dis bonne semaine.